Le meurtre de la rue à Lévis, une enquête de Gray par Alfred Gragnon. L'inspecteur principal, ayant exhibé sa carte, lui demanda s'il se souvenait d'avoir, vers 20h15 ou 21h, vu un monsieur seul, encore jeune, entrer au théâtre et probablement prendre l'ascenseur. « Je crois que oui, » répondait le préposé. « Comment était-il fait, ce bougre-là ? Oh, ça, je n'ai pas bien remarqué. Il s'est arrêté à l'orchestre. Bon. » « Montez-moi à l'orchestre. » « Mais le particulier, était-il grand, petit, gros, maigre, moyen, il me semble, mais pas très gros, plutôt sec. »« Et j'ai l'impression qu'il était brun. »« Oui, il avait une petite moustache noire, ça me revient. » »« Il m'a donné 5 francs de pourboire. »« C'est assez généreux, alors je l'ai repéré. » »« D'ailleurs, il n'avait pas l'air pressé. »« Mais demandez à l'ouvreuse. » Poussin, abandonnant l'ascenseur, répéta sa question à une vieille ouvreuse. La femme hésita. « À 9h15 ? Oh oui, parfaitement, je me souviens. Un monsieur, dans les 30 ans, une moustache noire. Oui, oui. Il avait un fauteuil impair. Alors il a fait le tour pour aller trouver une collègue de l'autre côté. » Poussin grommela et passa de l'autre côté de la salle par le vaste couloir circulaire qui l'entoure. Là, aucune ouvreuse n'avait vu le monsieur arriver vers cette heure-là. Un marchand de programme qui écoutait se mêla tout à coup à la conversation. « Attendez donc, » dit-il. « Il me semble bien, vers 9h15, enfin, quelques minutes avant la fin du premier acte, oui, un monsieur qui venait du côté des numéros pairs est parti par le grand escalier. Oui, il avait une petite moustache noire. J'ai cru qu'il quittait le spectacle. Je me suis même dit, encore un qui n'aime pas cette musique-là. Il a dû sortir par la place de l'opéra. » Poussin bougonna un juron. En bas, aux entrées donnant sur la place, on n'avait rien remarqué, ou en tout cas, personne ne s'en souvenait. Puis il retourna par la rue à Lévis jusqu'à la voiture et à la victime. Il y parvint rapidement. Ce fut pour apprendre que le numéro de la voiture avait été visiblement changé le jour même et qu'à l'intérieur, on avait fait sauter récemment la plaque du propriétaire. Dans le sac de la dame, rien n'avait été trouvé permettant d'établir son identité. Mais avis, confia un brigadier en uniforme à un de ses subordonnés, que la PJ aura du fil à retordre pour débrouiller cette affaire-là. Le lendemain matin, de bonne heure, à la PJ, il y avait une grande réunion dans le bureau du directeur général. Poussin avait fait son rapport et relaté les déclarations du chauffeur. Le directeur de la PJ posa une question. « Sur la fourrure ou sur la robe, n'a-t-on pas retrouvé la griffe des maisons qui les ont vendues ?»« Elles ont été arrachées, » dit à regret Poussin. Le directeur continua. « Et on n'a rien trouvé dans la voiture ?»« Rien, si ce n'est une paire de gants de femme marron, usagés d'ailleurs, des gants de sport. Ils doivent appartenir à la propriétaire de la voiture volée. » À ce moment, d'un coin de la pièce, s'éleva une voix lente et métallique, une voix que Poussin connaissait bien, pour en avoir subi maintes fois les douces mais implacables ironies, la voix de son célèbre collègue Gray, qui venait d'être tout récemment élevé au grade d'envié de commissaire. Poussin n'avait pas remarqué Gray en entrant chez le directeur. Où s'était-il donc caché? Mais entendre la voix de cet homme, le sang du gros inspecteur principal n'avait littéralement fait qu'un tour. Encore une fois, tout allait recommencer. Gray allait détruire toutes ses suppositions, toutes ses déductions à lui, Poussin. Encore une fois, Gray, ce sorcier, comme beaucoup le surnommaient, allait couvrir son collègue de ridicule et de confusion. Et pourtant, la voix avait simplement dit « Je vois les choses autrement. » J'envisage que la victime devait aller à l'opéra hier soir. Elle en avait la tenue normale et élégante. Une femme de cette classe, habillée de la sorte, ne prend pas le métro ou l'autobus en semblable occurrence. Elle doit avoir sans doute une domestique pour aller lui chercher un taxi, ou pour le moins, elle en est l'un du pas de sa demeure. Elle a une 30aine d'années, elle est assez jolie, certainement distinguée, riche. Je l'ai examinée ce matin à l'Institut médico-légal. Ce n'est pas une femme qui accepterait de monter dans la voiture de n'importe qui. En outre, l'assassin présumé paraît être en tenue de soirée, en tenue d'opéra. Il est donc à penser que victime et meurtrier ont décidé d'aller à l'opéra ensemble ce soir-là. Il est en conséquence probable que 2 places avaient été prises en location à l'orchestre côté pair, par lui ou par elle. C'est un départ d'enquête possible, difficile mais possible. Peut-être sera-t-il inutile si, après les éditions de Midi et du Soir, quelqu'un nous signale une probabilité d'identité entre la victime et une personne disparue. Dès l'origine, il y a à noter, pour s'en souvenir, que le meurtrier est un habitué de l'opéra. Il faut qu'il connaisse bien les êtres pour avoir conçu son moyen de fuite et s'en être tiré comme il l'a fait. Quelque chose encore doit nous surprendre, c'est la façon dont il a exagérément parlé fort en quittant la voiture. Il savait que la femme était morte, donc ce n'était pas pour se faire entendre d'elle qu'il élevait la voix ainsi. Quelle pouvait être alors la raison de cette façon de faire? Faire croire que la femme vivait encore puisqu'il lui parlait. C'est possible. Peut-être aussi voulait-il attirer l'attention sur lui. Songez qu'il ne s'est en rien dissimulé, ni au chauffeur Bourju, ni à l'homme de l'ascenseur, ni aux ouvreuses de l'orchestre. Pourquoi? Une idée m'est venue. Elle vaut ce qu'elle vaut. Cet homme a voulu qu'on remarquât une particularité de son visage, sans doute sa moustache brune, ce qui est d'ailleurs arrivé. Le chauffeur, le liftier, l'ouvreuse l'ont signalé à l'inspecteur Poussin. Il y a gros à parier qu'il n'a pas enlevé son chapeau et que ses cheveux sont taillés assez ras sur la nuque. Je gagerais que le meurtrier est blond et que sa moustache était postiche. Un monsieur brun, nous signale-t-on? C'est ce qu'il a voulu qu'on nous signalât. Quant à la voiture, elle appartenait à la dame et ce n'est pas une voiture volée. Voici les raisons de ces déductions. D'abord, les voleurs de voitures n'arrachent pas la plaque intérieure de propriétaire sans la remplacer par une autre avant de ressortir l'auto du garage où ils l'ont dissimulée. Ensuite, il est probable que les gants de cuir, gants de femme usagée, appartenaient à la victime. Les services de l'identité le détermineront. Il est à penser que cette femme conduisait sa voiture elle-même, même en robe de soirée, mais elle mettait des gants d'auto pour ne point se salir les mains ou par habitude de conductrice. C'est assez courant. D'ailleurs, la semelle des souliers de satin de la victime porte les traces légères mais très nettes laissées par les pédales de débrayage et d'accélération. Et les numéros qui ont été changés? Jeta Poussin avec une ironie victorieuse. J'y arrive, dit tranquillement Gray. J'ai, à la réflexion, la conviction que les plaques minéralogiques étaient prêtes d'avance, et que le meurtrier devait en connaître les mesures exactes et avoir sur lui les outils nécessaires pour les changer rapidement et au dernier moment, c'est-à-dire après le crime. Tout ceci m'amène à imaginer assez approximativement les modalités de l'action criminelle. Tous les visages se tournèrent avec une attention étonnée, mais admirative, vers Gray. Gray, après une courte réflexion, reprit. Victime et meurtrier se connaissaient fort bien, se sont vus assez souvent pour que, notamment, le meurtrier connaisse admirablement la voiture. Sont-ils partis ensemble de chez la dame, ou celle-ci a-t-elle été prendre son meurtrier chez lui ou quelque part? Ceci, je l'ignore. Mais ce qu'il y a de presque certain, c'est qu'entre le logis ou la rencontre des deux personnes et l'opéra, il faut trouver un endroit assez désert pour que le meurtrier révolverise sa victime, sans être entendu de proches passants, qu'il ait le temps, sans être dérangé, d'arracher la plaque de propriétaire, de changer les plaques minéralogiques, de faire passer sa victime du volant au coin arrière où il l'installe, puis ensuite de se coller sous le nez une moustache postiche brune. Poussin eut un petit rire sourd et d'une voix faussement innocente demanda « Et où peut-on faire ça, dans Paris, vers 8 heures du soir ?» Gray, d'un ton sec, laissa tomber « À l'abri d'un garage particulier, d'abord, puis dans le bois de Boulogne, ou dans le bois de Vincennes. En certains endroits, la chose peut être imaginable. J'ai déduit encore que la victime doit habiter Auteuil ou Boulogne, Neuilly ou Saint-Cloud, à moins que ce ne soit Charenton ou Saint-Mandé. Ce qui est cependant moins probable. » Un grésillement annonça un appel téléphonique. Le directeur prit l'appareil. « Oui ? Ah, bien. Oui ? Ça doit être ça. C'est sûrement ça. Merci. Nous y allons. » Il reposa l'appareil et se tournant vers Gray, il lui dit avec une sorte d'approbation souriante, mais presque respectueuse dans le regard, on signale au commissariat de Boulogne qu'une dame de Chandieu a quitté son domicile hier vers 7h30 avec sa voiture et qu'elle n'est pas rentrée. La mère est extrêmement inquiète. Elle craint un accident. L'adresse est 187 avenue de Boulogne, en bordure du champ de course de Longchamp, un hôtel particulier. Poussin se moucha bruyamment. « Allons-y, Gray, » dit le directeur en se levant. Puis il ordonna « Poussin et Laurent, venez avec nous. » L'hôtel de Boulogne était d'une élégance sobre, tenant du Louis XVI et de l'ultramoderne. Un garage flanqué à des côtés de l'étroit jardin donnant sur l'avenue. Le directeur de la PJ, laissant Poussin et Laurent dans la voiture, pénétra avec Gray dans la maison dont un vieux maître d'hôtel était venu rapidement lui ouvrir la porte. Une vieille dame sèche et assez hautaine m'allait rejoindre dans le salon où on avait introduit les deux hommes. « Des messieurs de la police ?» demanda-t-elle en s'arrêtant sur le seuil. Le directeur de la PJ, devant l'orgueil qui se dégageait de cette femme, jugea que s'il avait quelque chose de douloureux à prendre à une telle personne, sa tâche lui serait facilitée par l'antipathie qu'elle inspirait. Il ne put s'empêcher de répondre avec une sèche autorité. « Vous nous avez fait, je crois, madame, signaler la disparition de votre fille ?»« Oui. Elle a quitté la maison hier à 7h30 avec sa voiture pour se rendre à l'opéra avec un de ses cousins, monsieur de Kernedeck, qu'elle devait prendre en passant rue de la Tour où il habite. Or, ce matin, au réveil, mes gens m'ont appris que ma fille n'était pas rentrée. J'ai immédiatement téléphoné à mon neveu qui m'assurait qu'il n'avait pas vu ma fille hier soir et qu'il ne se souvenait pas qu'il dût passer la soirée à l'opéra avec elle. Lui-même est allé hier soir à ce théâtre et ne l'a pas vue. Alors j'ai craint qu'il ne soit arrivé un accident à madame de Chandieu. C'est ma fille. » Gray intervint doucement. « Quelle est la marque de la voiture de madame de Chandieu ?» La marque coïncidait avec celle de la voiture tragique. « Pourrais-je voir une photographie de madame votre fille ?» La vieille dame fit un signe d'acquiescement et, ayant sonné, donna un ordre au domestique qui se présenta. Une minute plus tard, le domestique revenait apportant une assez grande photographie encadrée de cuir. Gray tendit la main, la prit, y jeta un bref coup d'œil et la déposa aussitôt sur la table avec un hochement de tête. Le directeur poussa un petit soupir et avec plus de ménagement qu'il ne s'était promis d'en mettre, il se décida à dire « Madame, j'en ai fait la douleur d'avoir vous annoncé que madame votre fille était victime hier soir d'un accident. Enfin, oui, très grave. »« Très grave ?» murmura la vieille dame, abandonnant toute attitude hautaine et les yeux tout à coup emplis d'angoisse. « Soyez très courageuse, madame, » poursuivit sourdement le directeur. « Elle est morte. » Le silence des deux hommes fut leur seule réponse. La vieille dame chancela, et si Gray ne l'avait retenue, elle serait tombée. La bouche s'était entrouverte, et de ses yeux fixes, hébétés, coulaient lentement des larmes. Gray murmura quelques mots à l'oreille du directeur, et laissant à celui-ci le triste soin de compléter auprès de la mère les terribles nouvelles qu'on lui apportait, il sortit rapidement du salon. Dans le vestibule, le maître d'hôtel et une autre domestique, ayant tous deux le visage inquiet, semblaient attendre des nouvelles. En quelques mots, Gray leur apprit le drame. Tous deux en parurent profondément frappés de douleur et de stupéfaction. Le maître d'hôtel était depuis 20 ans dans la maison et la femme avait élevé madame de Chandieu. On se trouvait ici au domicile de la victime. La vieille madame d'Ambremont, mère de la malheureuse jeune femme, n'avait quitté sa propriété de Touraine pour venir s'installer à Boulogne auprès de sa fille Christiane que quelques mois avant que celle-ci ne se fût séparée de son mari. Gray entraîna rapidement le couple de serviteurs vers l'office et tira d'eux tous les détails qui pouvaient être utiles à l'enquête. La victime s'était mariée 5 ans auparavant avec le comte de Chandieu. C'était un mariage d'amour, du moins du côté de la jeune fille. Monsieur de Chandieu était un petit gentleman farmer des environs d'Amboise, ayant beaucoup de succès mondain, mais de fortune assez modeste. Mademoiselle d'Ambremont, qui, après la mort de son père, était devenue une des plus riches héritières du Blaisois, s'enticha de ce garçon, l'épousa et vint s'installer avec lui à Boulogne, en cet hôtel particulier qu'elle tenait de son père. Les deux vieux serviteurs avaient suivi leur jeune maîtresse. À l'origine, un parfait accord régna dans le jeune ménage. Évidemment, M. de Chandieu n'avait pas tardé à mener à Paris une existence personnelle qui consistait surtout, à ce qu'on savait, à aller aux courses, au cercle, parfois à passer la soirée avec des amis. Mais cette sorte d'existence est de mise dans certaines classes de la société, et comme, de son côté, Mme de Chandieu avait retrouvé à Paris de nombreuses relations de sa famille, voire des cousins, des cousines et amis d'enfance avec lesquels elle sortait, fréquentait l'été et allait au théâtre, le ménage vivait en harmonie. Malheureusement, cette harmonie avait été bientôt détruite par Madame d'Ambremont, qui avait décidé de venir passer l'hiver chez sa fille et son gendre. Le moins qu'on en puisse dire est que Madame d'Ambremont était d'un caractère orgueilleux et autoritaire. En outre, elle était loin d'aimer Monsieur de Chandieu. Elle le chargeait de tous les défauts, sinon de tous les vices. Elle ne sembla satisfaite que lorsqu'elle eut détruit le ménage de sa fille. Elle ne recula pas à tout faire pour persuader à celle-ci que son mari était un joueur qui risquait de la ruiner et sans doute un infidèle qui la ridiculisait. Au bout de quelques mois, M. de Chandieu, exaspéré par l'hostilité de sa belle-mère, avait fait ses mal et, après un arrangement financier quelconque, était parti vivre de son côté. Il avait quitté Paris et était allé s'installer à Biarritz, où il semblait s'être retiré définitivement. Cela faisait un an. Depuis lors, Madame de Chandieu, après quelques semaines assez sombres, avait repris son existence mondaine. Les personnes qu'elle voyait le plus souvent et avec lesquelles elle sortait, allaient même en week-end, au théâtre, à des réceptions, étaient ses amis Dantier et Falisset, un jeune ménage en tige de sport, aimant beaucoup s'amuser, et son cousin au deuxième degré, Louis le Kernedec, celui justement en compagnie duquel la jeune femme avait prétendu la veille devoir aller à l'opéra. À la vérité, si Madame d'Ambremont trouvait tout naturel les relations d'amitié entre sa fille et son neveu le Kernedec, elle supportait mal qu'elle fût attirée par le ménage d'Antier Falisset. Ces personnes avaient la réputation de vivre au crochet de leur ami, de mener un train d'existence bien au-dessus de leurs moyens et d'être criblés de dettes. En outre, leur mentalité était sujette à caution. Le mari, disait-on, aurait fait n'importe quoi pour de l'argent. Gray arrêta le flot de ses renseignements ou de ses médisances par une question brutale. « Est-il à votre connaissance que Madame de Chandieu ait marqué depuis sa séparation une inclination pour un quelconque de ses amis ?»« Oh !» dit la femme avec indignation. « Il n'y a pas de séparation qui eût pu faire oublier à Madame de Chandieu qu'elle était l'épouse devant Dieu de Monsieur le Comte. » Gray réfléchit et demanda encore. « Madame de Chandieu portait-elle des bijoux hier soir ?»« Oui. Sa rivière en diamant et son solitaire, ça vaut cher. »« À peu près combien ?» Oh, des centaines de mille francs. Est-ce qu'on les lui a volés? Oui, mon Dieu. Gray posa enfin la question qui lui tenait à cœur. Dites-moi, de quelle couleur de cheveux est Monsieur le Kernedec? Ce fut encore la femme qui répondit. Il est brun et porte une petite moustache noire. Et Monsieur Dantier Falisset? Lui, c'est un blond, et il est tout rasé. Gray demanda pour finir l'adresse de ces deux messieurs. Il les nota sur une petite feuille de papier qu'il remit dans sa poche. À ce moment, le directeur sortait du salon soutenant Madame d'Ambremont livide et chancelante. « Madame, » dit-il à la vieille dame, en la remettant aux mains de la domestique, « dans moins de 2 heures, ce que vous m'avez demandé sera fait. » Quand la vieille dame se fut éloignée, le directeur demanda à Gray, « Le mari, séparé depuis 1 an. » Le directeur hocha la tête. « Oui, je m'en doutais. Il faudrait tout de même le prévenir. Avez-vous son adresse ? Il habite Biarritz. » « Ah, diable !» Le maître d'hôtel qui avait entendu s'approcha. « Je m'excuse d'avoir entendu. Monsieur le comte habite la villa des Glycines, avenue du Phare. »« Il n'est peut-être pas là-bas en ce moment ?»« Certainement si, » répondit le serviteur, « car monsieur le comte m'a envoyé un télégramme hier matin pour que j'aille chercher chez l'armurier un fusil qu'il a laissé depuis plus d'1 an avant de quitter la maison. Il me donnait l'ordre d'envoyer l'arme contre remboursement, ce que j'ai fait hier soir. » « Avez-vous parlé de ce télégramme à Madame la Comtesse ?»« Oui, monsieur, mais pas à Madame d'Ambremont. Elle aurait été sûrement fâchée. » « Eh bien ?» demanda le directeur à Gray dès qu'ils furent dehors. « Qu'est-ce que vous avez glané ?» Gray résuma les dires des deux serviteurs. « Bien bizarre, cette histoire, le Kernedec. Ou la victime a menti, ou c'est lui qui cache la vérité. Moustache noire, dites-vous. Évidemment, cela irait à l'encontre de votre thèse d'un assassin blond. » Gray eut un piaussement d'épaule lent, comme s'il voulait exprimer que ses thèses pouvaient être erronées. Le directeur, avant de remonter en voiture, exposa rapidement ses intentions. Il allait, avant de revenir quai des Orfèvres, mettre immédiatement la maison des deux suspects en surveillance et charger les deux inspecteurs Poussin et Laurent de faire une discrète enquête sur eux et particulièrement sur leur sortie dans la soirée précédente. En outre, ils convoqueraient ce Le Carnedec et ce Dantier Falisset pour la fin de l'après-midi. Gray paraissait écouter son grand chef, cependant on sentait que sa pensée était ailleurs. Comme le directeur l'invitait à remonter en auto, il lui dit « Je pense que vous avez promis à Madame d'Ambremont de faire amener ici le corps de sa malheureuse fille. On va donc préparer sa chambre pour la recevoir et d'ici 2 heures, il serait indécent d'en troubler le calme. Je voudrais auparavant, et avant qu'on ait tout remis en ordre dans cette chambre, examiner les objets et surtout la correspondance. Peut-être pourrais-je y trouver des indications utiles. » Le directeur approuva et avant de s'en aller, rentrant dans l'hôtel de Chandieu, fit habilement le nécessaire pour faciliter le projet de Gray, sans que la douleur et la susceptibilité de Madame d'Ambremont s'en trouvassent blessées. Les recherches de Gray restèrent vaines. Son regard fit à plusieurs reprises l'inventaire de tous les meubles ou objets de la pièce. Tout ce qui pouvait servir de cachette fut vainement examiné par Gray. Il allait se retirer, déçu et ennuyé, quand il pensa que s'il avait soigneusement feuilleté le sous-main du bureau, il n'avait pas fait subir aux feuilles de Buvard les preuves classiques du miroir. Il revint au petit bureau et, prenant le sous-main, il l'ouvrit, présenta chacune des 4 feuilles de Buvard qu'il contenait à la réflexion d'une glace. Après un assez long examen, 2 des feuilles retinrent son attention. On distinguait assez bien l'extrême fin de 2 ou 3 lettres écrites par la comtesse de Chandieu. Ainsi on pouvait lire, infiniment tendrement, Christiane, et dans un autre coin, dit avec impatience ta Christiane. Le reste était illisible, ou du moins, il eût fallu pour tenter de le déchiffrer du temps, beaucoup de lumière, et un miroir grossissant. Aussi Gray n'hésita pas, il détacha les 2 feuilles de Buvard intéressantes, les plia, les mit dans une enveloppe, et enfouit le tout dans sa poche. Bientôt, ayant pour la seconde fois quitté l'hôtel, il fit quelques pas à pied, attendant le passage d'un taxi, et pestant lui-même, contre cette finale en 10, qui standardisait 6 jours de la semaine sur 7. Il avait hâte maintenant de rentrer quai des Orfèvres. Il trouverait certainement au service de l'identité judiciaire des spécialistes de déchiffrage munis de tous les instruments nécessaires qui arracheraient leurs secrets à ces feuilles de Buvard. Peut-être, d'ailleurs, la découverte de ces secrets, s'il y en avait, ne serait-elle d'aucun intérêt pour l'enquête, ni plus particulièrement pour certaines petites idées personnelles sur le crime qui commençait à se faire jour dans l'esprit de Gray. Cependant, dans la voiture qui avait repris le chemin de la police judiciaire, le directeur avait répété aux 2 inspecteurs principaux Poussin et Laurent ce que Gray et lui-même avaient appris à l'hôtel de Madame de Chandieu. Poussin eut un ricanement. Comme le regard de son chef était attiré sur lui, il expliqua sa pensée. « Ce monsieur Le Carnedec, c'est clair comme du vin d'Anjou, tout de même sacré blésieux. Je me doutais de quelque chose comme ça d'ailleurs. Le cousin qui sort la cousine. Pauvre certainement. Mais la cousine est riche. On sort en voiture avec elle, on va à l'opéra avec elle. C'est facile. Elle est abandonnée, c'est un beau prétexte. C'est le chevalier servant, comme on dit. Mais on prépare son coup de longue main. De l'argent. Il ne faut pas penser à lui en demander, mais pour l'opéra, elle mettra des centaines de 1000 francs de brillants sur elle. Elle arrive rue de la Tour avec sa voiture. Passons par la Muette, le Bois, la Porte Dauphine, l'Arc de Triomphe, c'est moins encombré. J'entends d'ici le boniment. À la hauteur des lacs, pan, pan. Un coup de frein, déménagement de la victime, on change les plaques préparées d'avance, et le coup de l'opéra, hier soir. Comme double sortie, on ne fait pas mieux. Il a du toupet, le monsieur. Il entre dans la salle, se fait voir. Brun, moustache noire, signalement conforme. Seulement voilà, c'est trop simple. On s'en va chercher bien loin ce qu'on a sous son nez. On complique. On s'imagine toujours que tous les assassins sont des malins. Je parie que cet imbécile-là a dû, sous un prétexte quelconque, demander à la victime de ne pas dire qu'elle sortait avec lui. Et, quand il apprit qu'elle l'avait tout de même dit, il croit s'en tirer en racontant simplement qu'il n'a jamais dû sortir avec sa cousine hier soir. Vous verrez qu'il se sera fait prendre par elle autre part qu'à sa porte rue de la Tour. Au coin de cette rue, et de l'avenue Henri-Martin, par exemple, ou je ne sais où. Alors, quand nous demanderons si on l'a vu monter dans la voiture d'une dame qui était comme ci, comme ça, on nous répondra « Oh non, monsieur de Carnedec est sorti à telle ou telle heure et seul. » Et toutes ces complications, pourquoi? Parce que monsieur Gray, monsieur le commissaire Gray, prétend que l'assassin est blond, pour la seule raison qu'il portait une moustache noire. C'est inouï, c'est à ne pas croire. Voyons, patron, réfléchissez. Pourquoi voulez-vous que Madame de Chandieu ait été raconter un mensonge à sa mère, à ses serviteurs? Ce n'est plus une gamine, une jeune fille. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît, donc elle n'a pas menti. C'est le Kernedec qui ment. Concluez. On arrivait à la hauteur de la mairie du 16e arrondissement, au coin de la rue de la Pompe. Le directeur fit arrêter la voiture. « Je pense, Poussin, en raison de ce que vous venez de me dire, que vous préférez vous occuper de M. le Kernedec que du sieur d'Antifalisset. Laurent s'occupera de celui-ci. Vous enquêtez sur le premier. Il demeure à deux pas, 163 rue de la Tour. Je vais d'ailleurs le convoquer pour cet après-midi. En attendant, tâchez d'en savoir le plus possible sur lui. » Poussin eut un mouvement de tête menaçant et descendit de voiture, tandis que celle-ci, sur l'ordre du chef, continuait son chemin vers les abords de l'adresse de M. Dantier-Falisset, où Laurent devait être déposé à son tour. Vers 4 heures de l'après-midi, Poussin et Laurent entrèrent presque simultanément chez le directeur général au quai des Orfèvres. Poussin s'écria en entrant « Patron, nos deux oiseaux sont là. Le mien n'est pas sorti de la journée. J'en ai profité pour faire bavarder la concierge, les voisins. En deux mots, réputation de purée, pas mal de petits créanciers, travail à des trucs qui ne rapportent rien, un métier idiot. Traducteur de manuscrits très anciens du temps des pyramides, enfin, quelque chose comme ça. Ne sort guère que le soir, mais tous les soirs vers 5 heures, ou en grand tralala, vers 7 heures. Il fait partie d'un cercle très chic. Mais j'ai des tuyaux. Il joue. Parfaitement, il joue. Je connais un type à ce cercle. J'ai téléphoné. Et les gens qui jouent, quoi qu'ils jouent, c'est toujours trop pour leurs moyens. De plus, attention, la concierge prétend qu'il est fiancé à une jeune fille noble et riche. Mais ça ne va pas tout seul avec la famille, parce qu'il n'a même pas de quoi payer la bague. Enfin, et c'est le principal, il est sorti hier vers 7 heures du soir, signalement absolument conforme à celui du meurtrier que nous a donné le chauffeur Borju, et il avait l'air très agité, très pressé. Bizarre. C'est exactement le mot que m'a dit la concierge. Bizarre. Pour moi, si vous voulez ma façon de penser, c'est notre homme. Le directeur se tourna vers l'autre inspecteur. Et vous, Laurent, avez-vous des renseignements sur votre bonhomme? Oui, monsieur le directeur. Et encore plus désastreux que ce qu'a réuni mon collègue sur son client. Les dentiers Falisset sont absolument aux abois. Le papier bleu afflue chez eux. Ils sont saisis et ressaisis sous le coup d'une ordonnance d'expulsion. Il y aura même contre eux des plaintes en abus de confiance. J'ai fait un saut en renseignement. Lui a été condamné pour coups et blessures. Il a d'ailleurs la réputation d'être très brutal. En outre, et ceci mérite attention, en partant un samedi, il y a 2 semaines, les personnes qui étaient venues le prendre en auto lui demandèrent en plaisantant s'il ne craignait pas les attaques des bandits de la route. Et le sieur Dantier Falisset a sorti de sa poche un revolver en disant « J'ai de quoi leur répondre ». Il passe en outre pour très fourbe, très hypocrite et il arrive, à force de ruse, de diplomatie et de bluff, à continuer à être reçu dans le monde. La femme est, dit-on, très malheureuse, bien qu'elle le cache avec dignité. D'aucuns disent qu'elle cherche certaines compensations, mais ça ne me paraît pas établi. Quant à lui, hier soir, il est sorti seul, à 6h15, en habit de soirée. Ce qui a paru un peu tôt pour une telle tenue au concierge, qui a également remarqué qu'il semblait tenir quelque chose d'assez volumineux dissimulé sous sa pelisse. Il se pourrait que ce fût les plaques d'auto qu'il se proposait de changer. Aujourd'hui, quand j'ai pris ma faction, il était sorti. Il n'est rentré qu'après le déjeuner. Ce n'est encore qu'une supposition, mais il a eu toute la matinée pour aller laver le collier de la dame et son solitaire. Ah, encore une chose, il est rentré hier soir à 10h15. 1 heure de plus, pas davantage, après le meurtre. Le concierge n'était pas couché. Il l'a vu passer et prétend qu'il avait l'air bizarre. Exactement le même mot. Pour l'instant, il arrive droit de chez lui en taxi. Comme le mien, bougonna Poussin. Le directeur venait de sonner. Un huissier se présenta. Le directeur donna un ordre. Allez dire à monsieur le commissaire Gray qu'il veuille bien venir me rejoindre tout de suite. Et quand il sera ici, vous introduirez monsieur le Kernedec. Oui, oui, dit Poussin. Plus je vais, plus j'ai idée que c'est le Kernedec le coupable. D'abord, cette moustache noire. Quelques minutes plus tard, M. le Kernedec se trouvait au milieu de 4 policiers et répondit avec franchise et netteté, semblait-il, aux questions que lui posait le directeur général, qui lui-même se montrait d'un tact et d'une politesse que réprouvait Poussin, partisan de la manière forte. En résumé, on apprit par le jeune homme que le mensonge fait la veille chez elle par la victime n'était pas le premier du même genre. Il y a quelques semaines déjà, Christiane de Chandieu m'avait fixé un rendez-vous dans un thé pour me demander d'annoncer à sa mère, Madame d'Ambremont, que c'était avec moi-même et des amis que Christiane passerait le prochain week-end. Bien que ce mensonge me déplût, j'ai cédé aux instances de ma cousine. Elle ne m'avait d'ailleurs point révélé ce qu'elle avait l'intention de faire de ces 2 ou 3 jours de liberté. Je l'ai mise en garde contre toutes les relations qu'on se croit obligé de cacher. Mais elle me répondit qu'elle était incapable de faire quoi que ce fût de mal ou de contraire à la morale et à l'honnêteté, mais qu'en l'occurrence, elle répugnait à entrer une fois de plus en lutte contre l'autorité, le despotisme, les jugements erronés de Madame d'Ambremont, sa mère. Je pense que pour la prétendue soirée qu'elle devait passer à l'opéra, hier soir, elle a dû, sans m'en prévenir, raconter, pour se libérer, la même contre-vérité chez elle. Elle savait pourtant que je devais aller à l'opéra avec la jeune fille que je considère comme ma fiancée et sa mère, Madame Herbelin. « Oui, oui, » se permit de dire, poussait insidieusement et adoucissant sa voix. « Vous êtes allé retrouver sans doute ces dames à l'opéra dans le courant de la soirée. Oh non ! Je suis allé les prendre à 7h15, comme il était convenu. J'étais même un peu en retard. J'étais invité par ces dames, non à dîner, mais à prendre une légère collation avant le théâtre. À 8h, nous avons quitté leur hôtel de la rue de Lille dans leur voiture et nous sommes arrivés à l'opéra 10 minutes après. Dans la loge 7, qui est la leur, nous attendaient des invités de ces dames, M. Gossin, le gouverneur colonial et sa femme. Le spectacle venait à peine de commencer. À ce moment, M. le Kernodec, sans doute surpris par le silence attentif qu'accueillait ses explications, s'arrêta et regarda ses 4 interlocuteurs. « Ah, je comprends, » murmura-t-il. Le mensonge de Christiane a attiré les soupçons sur moi. Mais 10, 20 témoins peuvent assurer qu'ils m'ont vu, qu'ils ne m'ont pas quitté de 7h15 à minuit passé. J'ai appris la fugue de Madame de Chandieu par le coup de téléphone de sa mère, à 9h30, ce matin. J'ai même, je l'avoue, fort mal reçu cette communication. Les inventions de Christiane pouvaient finir par arriver aux oreilles de Mademoiselle Herbelin ou de sa mère et compromettre un bonheur auquel je tiens, et dont ma nomination, en date d'hier à l'école des Chartes, lève les derniers obstacles. Quant au meurtre épouvantable dont Christiane a été la victime, je l'ai appris par des coups de téléphone de divers amis ou parents qui venaient eux-mêmes de l'apprendre par un journal de midi. Une demi-heure après, alors que je me préparais à courir à Boulogne, j'ai reçu votre convocation. L'attitude de Poussin était pitoyable. L'innocence absolue de M. le Kernodec éclatait. Ses dires, son attitude, l'alibi présenté ne pouvaient tromper. Le gros inspecteur principal lançait au commissaire Gray des regards en dessous. Ce Gray maudit était décidément un sorcier. Mais aussi, pourquoi le Kernodec avait-il une petite moustache noire, comme l'assassin ? La rancune de Poussin mettait Gray et le jeune homme dans le même sac, un sac qu'il voulait jeter au fond de la Seine. De son côté, Gray, qui avait marqué jusque-là presque de l'indifférence à l'entretien, posa une question à M. le Kernodec. « Savez-vous depuis combien de temps Madame de Chandieu possédait la voiture dans laquelle elle a été assassinée ? 2 ou 3 ans ?» Le directeur, ayant remercié et renvoyé M. le Kernodec, fit entrer M. Dantier Falisset. L'attitude de ce dernier était fort éloignée de celle du précédent témoin. Il semblait nerveux, troublé, et son arrogance cachait une crainte visible. « J'étais fort surpris, monsieur, de votre convocation, » commença-t-il. « Je ne sais pas. » Le directeur l'interrompit. « Il s'agit, monsieur, du meurtre de Madame de Chandieu. » À ces mots, M. Dantier Falisset poussa un soupir de soulagement, esquissa même un sourire de satisfaction, et toute inquiétude disparut de son regard. Dès lors, Gray, qui l'observait depuis l'entrée, se désintéressa du reste de l'entretien. À la vérité, on apprit bientôt par l'obligation où il était de fournir un emploi contrôlable de son temps, entre 19h et 22h, la veille, qu'il avait dîné seul à son cercle, de 8h30 à 9h30, mais qu'auparavant, il s'était rendu chez un antiquaire dont il donna l'adresse pour lui vendre 2 gravures anciennes de grande valeur et qu'il l'avait emporté de chez lui à 7h en sortant. « Pourquoi les dissimuliez-vous sous votre pardessus ? » questionna le directeur. De nouveau, M. Dantier Falisset se troubla, se lança dans des dénégations, des explications, pour finir par avouer que le concierge de son immeuble était gardien de saisie, particulièrement du fait des loyers en retard. Il craignait que cet homme ne s'opposât à la sortie des gravures et qu'il ne le fît inquiéter pour détournement d'objets saisis. Deux coups de téléphone donnés par Laurent suffirent à contrôler l'exactitude du double alibi apporté par le témoin, et bientôt les quatre policiers se retrouvèrent seuls dans le bureau dictatorial. Grace était assis au fond d'un fauteuil. Son visage fin et pensif reflétait l'activité de son esprit, mais, à l'encontre de ses collègues, supérieurs ou subordonnés, ne décelait aucune inquiétude. Au contraire, on eût dit qu'une satisfaction de plus en plus grande se faisait jour en lui. Cette attitude frappa le directeur. « Vous avez une idée, Gray ? » demanda-t-il. « J'en reviens à mon point de départ. Le meurtrier a tenu à ce qu'on le vit, et je crois bien à ce qu'on le confondit, grâce à cette petite moustache noire, probablement postiche, avec M. le Kernedec. Nous savons donc de lui que c'est un habitué de l'opéra, un homme du monde, qu'il connaît au moins de vue M. le Kernedec, qu'il sait que Mme de Chandieu sera censée être sortie avec ce dernier, et, pour aller à l'opéra, qu'il a voulu attirer les soupçons sur le cousin de la victime. Nous savons, d'autre part, qu'il connaît parfaitement la voiture de celle-ci, la mesure exacte des plaques de numérotage minéralogique. Voilà pour le meurtrier. Passons à différents faits. Le vol est le mobile du crime. Si ce meurtrier n'avait fait que s'emparer de la rivière de diamants et du solitaire, quelques valeurs commerciales que ces bijoux puissent avoir, cela n'aurait pas autant affirmé le mobile exact que le fait que Mme de Chandieu a retiré hier après-midi même de la banque 200 000 francs en billets provenant d'une vente d'actions ordonnée depuis plus de 15 jours. J'ai su cela tout à l'heure par une communication du directeur de la banque même qui a pris l'initiative de me la faire à toutes fins utiles après lecture des journaux de midi. Cet argent, je n'en ai pas trouvé trace chez la victime et personne chez elle, je m'en suis assuré, n'en a entendu parler. Que doit-on en déduire ? C'est que le meurtrier savait que Madame de Chandieu aurait cet argent sur elle. Or, quand on va à l'opéra, on n'emporte pas de 100 billets de 1000 francs dans son sac, ou plutôt dans un paquet. Il est donc probable qu'il était entendu entre le meurtrier et la victime que celle-ci apporterait cet argent. Quelle pouvait être la raison de cette entente plus ou moins amiable ? Madame de Chandieu obéissait-elle à un chantage ? Alors, du moment qu'elle y cédait, à quoi devait servir de la tuer ? Était-ce pour s'emparer des centaines de mille francs de bijoux qu'elle portait sur elle ? Allons donc, une femme qui apporte 200 000 à un maître chanteur ne va pas se parer d'une fortune en joyaux susceptible d'attirer sa convoitise. Donc, nous devons écarter l'hypothèse du chantage et admettre définitivement que c'est en parfait accord avec son meurtrier et dans un but encore à découvrir que Madame de Chandieu avait sur elle cette grosse somme et peut-être justement ceux de ses bijoux qui avaient le plus de valeur. Arrivons à l'exécution du meurtre. La préméditation et même une longue préparation paraissent démontrées. La femme doit apporter de l'argent, une somme importante, et les bijoux de valeur. Si nous ignorons l'emploi exact auquel était destiné tout cet argent, nous pouvons tout de même penser que cet emploi convenait parfaitement à Madame de Chandieu. Or, la première idée qui nous vient, quand nous voyons une femme quitter sa maison avec un numéraire et des objets de valeur importante, c'est qu'elle se prépare à une fugue, à un départ, à une fuite de longue durée. Cette idée, je l'ai eue, je l'avoue, en me rappelant des cas analogues. Mais une femme qui veut fuir, accompagnée ou non, en auto ou par le train, ne s'habille pas en toilette de soirée, en tenue d'opéra. Si je ne me trompe pas, il fallait que Madame de Chandieu n'eût rien trouvé de mieux pour quitter sa maison et la surveillance maternelle qu'en prétextant une soirée à l'opéra. Idée bien étrange, en vérité, qui ne pouvait lui être venue que sur le conseil, la suggestion de son criminel commensal. N'oublions pas que le plan de celui-ci était bien préparé et comprenait le mensonge, par la victime, d'une prétendue soirée avec M. le Kernedec. Spécialement choisi pour sa moustache noire, j'en suis sûr, et avec l'usage éventuel de l'opéra comme immeuble à deux issues. Cependant, en ce cas de fugue préméditée avec son meurtrier, Madame de Chandieu avait dû sortir ou faire sortir de chez elle une quantité importante de robes, de linge et de tous autres objets d'habillement qu'elle comptait reprendre avant son départ de Paris. Si cela n'était pas, mon raisonnement ne tenait pas debout. Aussi, je n'ai pas hésité. J'ai sauté dans un taxi et me suis fait conduire à Boulogne. Pour la troisième fois, je suis entré chez Madame de Chandieu. Je ne voulais que voir la vieille femme de chambre. Or, savez-vous ce que je tiens d'elle ? C'est que voici une dizaine de jours déjà, Madame de Chandieu avait fait elle-même une assez forte malle emplie de robes, linge et objets d'habillement, qu'elle avait prétendu vouloir envoyer à une parente pauvre en Touraine. La vieille femme de chambre s'était d'ailleurs étonnée que la comtesse eût envoyé nombre de choses d'acquisition récente, et parmi les plus élégantes, et plus encore que cela ait été sa maîtresse elle-même qui est tenue à faire personnellement l'envoi. Un matin, elle avait fait appeler un taxi, fait charger la malle sur la voiture et donné comme adresse la gare de Lyon. Tout s'enchaînait. Nous sommes donc amenés à en déduire que le meurtrier a dû, il y a déjà quelque temps, convaincre sa victime de fuir avec lui, de se munir d'argent, de prendre pour prétexte une soirée à l'opéra avec son cousin. La préparation du crime démontre que ses conseils étaient hypocrites. L'homme avait d'autres desseins que ceux qu'il présentait à Madame de Chandieu. Sans doute en voulait-il seulement à son argent pour des fins bien différentes de celles qu'il lui avait présentées. Peut-être encore avait-il le désir impérieux de se débarrasser d'elle. Madame de Chandieu nous apparaît comme une femme dont le jeune ménage qui marchait ni mieux ni plus mal que d'autres ménages mondains semblables a été terriblement troublé, puis rapidement détruit par une mère autoritaire, tyrannique et violemment hostile à son gendre. La séparation est venue de celui-ci qui ne pouvait plus supporter, semble-t-il, une telle belle-mère installée à son foyer. Mais comment Madame de Chandieu a-t-elle admis et supporté cette rupture? Si tout dans ses actes démontre que par habitude et éducation elle vit dans une espèce de terreur respectueuse de sa mère, il ressort des dires de la vieille femme de chambre que Madame de Chandieu, alors même qu'elle cédait aux impératifs de sa mère et acceptait de voir son mari quitter le foyer, ne devait pas pour cela cesser d'avoir de l'affection pour son époux. Monsieur le Kernedec, de son côté, nous a représenté sa cousine comme profondément attachée aux devoirs de sa religion. Une femme de ce genre, il y en a encore à notre époque, se considère, quoi qu'il arrive, indéfectiblement attachée à l'époux qu'elle a pris devant Dieu. Elle peut bien en être séparée, voire légalement divorcée, elle considère qu'il doit être jusqu'à la mort l'épouse féale de l'époux unique. D'ailleurs, je le répète, malgré sa mère, malgré les fautes que celle-ci imputait au mari, on semble penser dans son entourage que la jeune femme n'avait point cessé de l'aimer. « Quoi ? Gray, où voulez-vous en venir ?» interrompit le directeur général. « À ce que vous devinez, monsieur le directeur, il n'y a qu'un homme pour lequel Madame de Chandieu peut s'abaisser à faire des mensonges à sa mère. Il n'y a qu'un homme auquel elle puisse vouloir fuir. Il n'y a qu'un homme auquel elle puisse consentir à remettre argent et bijoux, c'est son mari. » Poussin eut un rire sec et prit un ton narquois pour s'écrier. « Alors ce sera lui l'assassin. Il envoie un télégramme hier matin de Biarritz pour réclamer un fusil de chasse, ce qui détermine qu'il était à Biarritz hier matin, et hier soir à 7 heures il retrouve sa femme à Paris et la tue. Monsieur le commissaire, Gray me permettra de lui dire que c'est une histoire de roman feuilleton ou de cinéma, mais pas de police sérieuse. » Gray reprit froidement. « J'ai vu sur le télégramme l'heure du départ du télégramme, 8h47. Or, le train pour Paris part à 9h15, atteint Bordeaux vers midi et arrive à Paris vers 6h, donc pas d'impossibilité. Monsieur de Chandieu court à l'opéra, loue un fauteuil d'orchestre quelconque, peut-être deux, et repart au rendez-vous fixé depuis longtemps avec sa femme, sans doute dans une allée écartée du bois de Boulogne. Il a une valise dans laquelle voisinent les plaques d'auto à changer et des outils nécessaires, car lui, il a connu la voiture et sans doute il l'a revue lors d'un week-end passé il y a quelques semaines avec sa femme en cachette de la belle-mère. Il doit y avoir sans doute encore dans la valise une cravate blanche ou un foulard de soie, un chapeau de soirée Jean Gibus, un pantalon noir, enfin de quoi faire la transformation rapide d'un voyageur en spectateur de l'opéra. Il commet son crime, suit son plan pour faire tomber les soupçons sur le Kernedec, sort de l'opéra par la façade, saute dans un taxi, change rapidement sa mise dans sa voiture, reprend probablement à la consigne de la gare d'Orsay une autre valise, se change complètement dans le train, descend à Bayonne et apparaît un peu partout à Biarritz, comme s'il sortait de chez lui vers 10 ou 11 heures. Il doit s'être arrangé pour habiter un appartement ou une villa où personne ne pourra nous dire qu'il n'a pas couché la nuit dernière. Sans doute se sera-t-il même fabriqué un alibi incontrôlable pour la journée, promenade en montagne, excursion à Pau ou à la frontière espagnole, ou quelque chose de ce genre. La mentalité de cet homme ne doit pas être très brillante. Pour être autoritaire, Madame d'Ambremont ne m'est pas apparue comme sans intelligence. Son aversion pour son gendre, dès avant le mariage, peut avoir des raisons plus solides, qu'un simple esprit de contradiction. La vie qu'il mena ensuite, et dont nous avons eu de faibles échos, laisse deviner un homme aimant le jeu, et ayant sans doute d'autres défauts, ou même d'autres passions peu souhaitables chez un époux.
Oui, maugréa Poussin, mais de là être un criminel, à tuer sa femme avec une telle préméditation, un tel sang-froid dans l'exécution, il y a une marge, et monsieur le commissaire Gray ne nous a pas encore démontré le mobile qui aurait pu, ayant l'argent en poche, pousser ce mari à se débarrasser de madame de Chandieu.
Démontrer ? Comment pourrais-je le faire ? Ce mobile, je le devine, je le considère comme certainement existant, mais je l'ignore. Cependant, de ce que je connais du bonhomme, je ne serais pas étonné qu'il ait trouvé quelque riche héritière, et que l'argent et le crime n'eussent servi à détruire tous les obstacles qui se dressaient devant cette nouvelle union.
Il faudrait téléphoner au commissaire spécial de Biarritz, dit seulement le directeur de la PJ.
C'est déjà fait, murmura Gray.
Il doit me téléphoner ici dans la soirée les renseignements qu'il aura pu dès aujourd'hui recueillir sur monsieur de Chandieu et également surveiller ses allées et venues jusqu'à son départ.
Vous croyez qu'il reviendra à Paris ?
Certainement. D'abord, d'importantes questions d'intérêt l'attireront. Ensuite, il craindrait trop qu'en ne revenant pas, l'étonnement suscité fasse naître des soupçons.
Le directeur approuva la conclusion de Gray et termina en disant « Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de Biarritz, mais je crois que nous aurons du fil à retordre pour convaincre de ce crime un gaillard de cet acabit.
« Surtout s'il n'est pas le meurtrier, » dit Poussin, avec une ironie qu'il jugeait mordante.
« Monsieur l'inspecteur principal Poussin, soyez donc sans faute à l'arrivée du train à 8 heures demain matin à gare d'Orsay, » dit le directeur légèrement agacé, puis se tournant vers Gray.
« Veuillez me téléphoner ce soir à partir de 10h30, si cela ne vous dérange pas. Je vous mettrai au courant et nous envisagerons de prendre ou non des dispositions vis-à-vis de monsieur de Chandieu. » Le lendemain matin, à 8 heures, un voyageur ressemblant un peu à monsieur de Kernedeck, mais aussi blond que ce dernier était brun, descendait du train venant de la côte basque quand un chauffeur de taxi qui, debout à la sortie de la gare, semblait tranquillement attendre un client quelconque, poussa en voyant le voyageur une exclamation de surprise. Celui-ci tourna la tête vers le chauffeur qui s'avançait, disant
« Ah, par exemple, en voilà un hasard.
N'est-ce pas vous que j'ai pris avant-hier soir du côté de l'opéra pour vous amener ici ?»«
Oh non, mon ami, vous faites erreur. »
Mais le chauffeur insistait, s'accrochant.
« Oh, pas du tout, je vous reconnais bien. Malgré que vous ne soyez pas habillé de la même façon et que vous ayez rasé votre petite moustache. Oh, mais il ne faut pas me la faire. Vous m'avez refilé une fausse pièce, même que je l'ai encore là. Ce n'est pas des choses à faire un travailleur. On va voir un agent. »
Se disant, la voix du chauffeur devenait de plus en plus forte. Les gens commençaient à écouter, à se retourner.
« Bon, bon, pas d'histoire. Je ne l'ai pas fait exprès. Tenez, voilà 20 francs. Excusez-moi. »
« C'est tout de même trop fort, » continua le conducteur de taxi, voulant me soutenir que ce n'était pas vous.
« Et tout ça pour une malheureuse pièce de 20 francs, même que j'ai remarqué votre pantalon noir et que vous aviez changé de je ne sais quoi dans la voiture.
« Bon, bon, » dit le voyageur. « Tout de même, qu'est-ce que je puis faire de plus ?»
Mais décidément, le chauffeur était un mauvais coucheur et poursuivait. « Refiler de la fausse monnaie, c'est défendu. Peut-être bien que vous la fabriquez. Je ne vous lâcherai pas comme ça. Vous allez venir vous expliquer avec moi au commissariat.
Mais vous êtes fou, je suis pressé. Tenez, voilà 100 francs, mais laissez-moi partir. »
À ce moment, un monsieur s'approcha des deux hommes.
« Veuillez me suivre, monsieur de Chandieu. Inutile de faire du bruit ou de résister, je suis le commissaire Gray. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. »
L'homme devint aussitôt horriblement pâle.
Encadré de Gray, de Roussin et du chauffeur, devenu tout à coup extrêmement calme, il monta dans une voiture qu'on lui indiqua et qui prit aussitôt le chemin du quai des Orfèvres. En cours de route, il balbutiait.
« Mais c'est fou, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. De quoi m'accuse-t-on ? »
Alors Gray dit
« Monsieur le Chandieu, je reconnais que vous avez fait montre de beaucoup d'activité pour assassiner votre femme, mais vous avez négligé la police française en cachant si mal les bijoux et l'argent que vous lui avez volés. Vous n'aviez pas pris le train depuis 1 heure à Biarritz hier soir qu'on retrouvait les joyaux et presque tout l'argent dissimulé derrière le fronton d'une armoire de votre chambre. Si c'est là tout ce que vous avez trouvé comme cachette, je n'en félicite pas votre imagination, et je vous aurais cru trop de sang-froid pour ne pas tomber dans le piège, bien grossier, que vient de vous tendre un de nos inspecteurs déguisés en chauffeur. Achetez son silence, quel aveu.
Quant à l'alibi que vous tenez, je le sais, en réserve pour la journée et la nuit d'avant-hier, je le prévois et je le connais. Vous avez eu soin de dire au plus grand nombre de personnes possible que vous alliez passer la journée à Bayonne et que vous ne reviendriez qu'après le dîner. Quant à la femme de journée qui fait le ménage de votre petit appartement, route du Phare, vous l'avez, comme par hasard, renvoyée et réglée la veille sous un prétexte futile. C'est un peu cousu de fil blanc, tout ça. De Chandieu, Donnerlin murmura. « Ah, ça va bien, j'ai perdu, tant pis. »« Évidemment, » conclut Gray. « Et vous n'épouserez pas la riche mademoiselle Carlotta Meinheim, pour laquelle vous avez volé et assassiné votre femme. » Poussin, pendant ce temps, jetait des regards de haine au prisonnier, à qui il en voulait, encore plus que de son crime, d'avoir permis, une fois de plus à Gray, d'avoir eu si entièrement raison. Ainsi s'achève le meurtre de la rue Alévi par Alfred Gragnon.